Martin Matalon, la question qui me vient à la lecture du livret, sans, je dirais, parler d'abord de la musique, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de références historiques dans cette œuvre.
Oui, il y a pas mal de références historiques, surtout à la fin, et aussi les références musicales dont Lavelli était très très attaché. Dans la pièce de théâtre, j'imagine, c'est du pain béni parce qu'il n'y a pas de musique, alors tout c'est parce qu'il y a une douzaine de références musicales. Ça aussi, c'était une partie de négociation très dure, de garder ou pas, et combien, etc.
Oui, parce qu'on sentait bien ça, quand on parle de l'Argentine, on est suite au tango, donc on ne connaît pas grand-chose de l'Argentine, mais le tango, on connaît un peu, donc on voit bien les références du tango. Mais ce qui est quand même fascinant, c'est qu'on a l'impression que l'histoire se passe en 1946, à un moment donné.
55, non 55.
En 1946, puisqu'il y a une des scènes où, je tiens à préciser, c'était la première tentative électorale, moi la dernière tentative électorale de José Tamborini, qui s'était présentée contre Perón. Et là, il est indiqué précisément dans le texte.
Oui, mais je pense que peut-être il confond tout parce que aussi à 55, je pense la fusillade, tout ça, c'est la révolution Libertadora. C'est quand ils ont viré Perón et tout ça, les militaires. Alors oui, Tamborini, moi je connaissais pas. Hein. Je pensais que c'était un nom. Je sais pas si c'est fiction ou non. J'ai pas demandé. Hein, mais il était quelqu'un de vrai. Ok. Mais bon, c'est une référence comme ça. Légère, non? Mais bon, moi je pensais que c'était 55, justement, la révolution, la dernière fusillade qui arrive.
Mais pour Largui, c'est comme ça on la prononce, son
oui,
nom, Largui?
Largui.
Pour Largui, quand même, l'impression que l'on a, c'est que c'est pour lui très très important, parce qu'on voit bien qu'il se situe plutôt du côté du monde libéral, parce que José Tamborini est un libéral qui va s'opposer à Perón, et leur dit le vieux
Tamborini. Oui.
Et le vieux Tamborini, il est en fin de course, en fait, il se présente en élection.
Oui, ça c'est pas Largui, c'est Rogelio, le personnage qui parle de Tamborini. Oui, parce que Largui est dans la campagne. Oui, mais ça, on voit pas trop les préférences politiques et tout ça. C'est surtout c'est le campo argentin profond avec cette fille qui est un personnage hyper intéressant qui tue tout le monde. Il tue son enfant, il tue son frère qui devient son mari, sa mère, tout avec l'air d'une petite fille de campagne innocente que veut chanter du tango, c'est tout.
Un élément qui m'a semblé très important, c'est l'eau. J'ai l'impression que l'eau est omniprésente, parce qu'au départ, on a une petite rivière, mais après, ça va être une pluie diluvienne et on va finir devant des chutes.
L'eau et tous les éléments de la nature sont un élément hyper important, comme sont dans le campo argentin. Au début, c'est un énorme orage. Pendant les 6 ou 7 dernières scènes du premier acte, c'est tous, ils sont dans la boue, dans l'orage, dans la pluie torrentielle. Tous les éléments naturels ont un rôle très important. Il y a le désert, il y a la forêt tropicale et il y a l'autre jungle que c'est la jungle de Buenos Aires.
Oui, surtout que les chutes d'Iguazu, c'est impressionnant.
Ah oui, c'est comme Niagara ou plus.
Donc on se demande, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en même temps de cosmique dans le rapport de ce personnage à cette nature?
Si, absolument. Et la façon que dans la fin du dernier acte, comment Venceslao va parler du temps. Pas le temps qui passe, mais le temps qu'il fait. C'est ça la vraie importance pour Venceslao. C'est le temps, pas le temps qui passe. Pour eux, c'est bien sûr, c'est capital, c'est comme les animaux. C'est pareil, les animaux et la nature, ça fait partie d'un. Quand on est au campo, c'est normal, c'est vital tout ça. Les animaux sont d'extension des personnages où ils ont un rôle déjà, le perroquet qui est extrêmement important dans toute l'œuvre. C'est un caractère très impressionnant, très, très important, très important.
Ces quelques personnages rassemblés comme une espèce de famille. On a l'impression qu'il y a un mariage à trois, et même étendu parfois.
Oui, c'est une famille avec des liens bizarres. La fille de Venceslao va se marier avec son frère, ils disent qu'ils ne sont pas frères. C'est tout, mais on comprend bien qu'ils sont frères et sœurs. C'est une famille qui explose quelque part et que chacun part à un différent endroit de la planète. De la planète en Argentine quand même.
Le langage est terriblement cru. Dès le départ, on a un langage physique.
Tout à fait, tout à fait. C'est bizarre parce que beaucoup de gens là, à Rennes me disent « Ah, le langage et tout ça ». C'est vrai qu'en travaillant avec ça, on oublie complètement. Moi, au début, ça m'a fait rigoler, sans plus. Non, ça m'a fait rigoler, pas sans plus, mais ça m'a fait rigoler. Après, j'oublie complètement. Une fois qu'on a rentré dans cette logique, dans ce monde-là, c'est plus un problème. Mais je voyais des gens à Rennes, par exemple, qui lisaient la première fois le livret. Ils disaient, comment à l'opéra, on va dire tout ça? Et bon, Moi, ça m'a pas fait beaucoup d'impression. Mais seulement que ça faisait rire beaucoup, parce que tout ça, c'est très comique, la façon que c'est dit, la façon que c'est répondu, etc. C'est très comique. Et c'est cru à la fois.
Les deux femmes ont une histoire très étrange, en même temps, presque divergente dans leur manière, mais en même temps, quelque chose qui les rassemble.
Qui les rassemble, quoi? Parce que la Tine est un personnage, comme j'ai dit, très intéressant dans l'opéra, et peut-être le plus important. Bah, je sais pas si le plus important, mais très important. Mais Chita, non, je sais pas comment on les ressemble, parce qu'ils sont d'une famille à peu près la même famille. Mais sinon, je sais pas. Pourquoi tu me dis ça?
Parce que j'ai l'impression que Chita va peut-être refaire une histoire de la même manière que Chita. J'ai l'impression dans son rapport aux hommes.
Non, elle est beaucoup plus perverse, la Tine. Hein. La Tine, en plus, elle est beaucoup... Mais Chita, c'est une femme qui est généreuse, qui est bonne vivante, mais généreuse. Tandis que la Tine, elle est... N'importe qui se met dans son chemin, il le tue. Même son bébé, il lui a donné... Au lieu de lait en poudre, il lui donne Morora. Rogelio aussi, son mari, son frère mari, il l'empoisonne parce qu'il voulait justement partir avec un macro, qui est le danseur de tango.
Mais au départ, quand on la voit, c'est pas cette impression que l'on a.
De Chita. Ah non, 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 et ça, il faut le garder. Moi, je voulais pas jamais le montrer, ça. Je voulais justement faire la petite fille du campo argentin qui est innocente, qui est amoureuse, etc. Je voulais pas du tout dévoiler ça dans la musique, dans la façon de la faire chanter.
Et alors aussi, il y a un élément que l'on a dans ce climat, c'est les hommes. Et est-ce qu'ils sont forts, les hommes?
Le seul qui est vraiment fort, c'est Venceslao. Lui, c'est un homme de campo, un gaucho, avec tout son honneur, et c'est l'homme de la pièce. Largui, c'est une personne très ambiguë, très ambiguë. Donc Venceslao, on l'appelle PD, comme ça, mais bon, il est ambigu. C'est un personnage très intéressant parce que... Il a un humour, il a une personnalité très intéressante. Et puis Rogelio, c'est quelqu'un qui est un peu banal comme personnage.
Oui, comparativement, c'est celui qui semble le plus banal dans l'histoire.
C'est ça.
Et alors, comment on fait? Alors, bien sûr, sur le problème du tango, je vois bien sûr avec Tita Merello, oui. Et qui semble très important, et qui le rejette Libertà de la Marque, et oui. Qui semble vraiment rejeter. Il y a presque une histoire d'opposition dans le tango. Qu'est-ce que c'est un peu?
Oui, parce que Tita Merello, c'est le tango senti, vraiment, la rue, c'est comme Edith Piaf, un peu, tu vois. Et tandis que Libertà de la Marque, c'est une voix beaucoup plus travaillée, beaucoup moins intéressante pour moi, que, à niveau de l'expression, que Tita Merello. Et à la remarque, c'est, on va l'écouter d'ailleurs, parce que ça, c'est, j'ai gardé des 12 citations, j'ai gardé 5. Alors on va écouter Tita Merello, on va écouter 3 fois, c'est la radio, hein. L'orchestre continue à faire ce qu'elle fait, mais la radio passe Tita Merello 3 fois. Et Libertà de la Marque, à un moment donné, on la passe, et on voit très bien la différence tout de suite. Moi, j'avais oublié Libertà de la Marque, et quand j'ai écouté, je me rappelle exactement.
La question un peu provocatrice, évidemment. Oui. Sur le plan musical, est-ce que tu te situes plutôt du côté de Tita Merella ou de Libertà de la Marque?
Non, Tita Merello, bien sûr. C'est l'héroïne, Tita Merello.
Donc, un langage plus cru dans l'orchestration?
Dans l'orchestration, oui. J'ai beaucoup travaillé aussi, par exemple, bon, il y a beaucoup de bruitages, pas seulement de l'orchestre, mais des bruitages, des vrais bruitages, des tonnerres, je me suis beaucoup amusé à les mélanger avec l'orchestre, des bruits de ville, etc. C'est plutôt cru, parfois il y a besoin de moments d'un peu de douceur ou des nocturnes, des choses oniriques, ça c'est sûr qu'il y a aussi, sinon ça serait insupportable. Parce que le rythme, quand même, il est assez soutenu dans la pièce, hein, surtout avec la Veli. Dans la mise en scène, ça va très vite, ça va très très vite. Une scène chasse l'autre, pas perpétuellement, parce que quand même il faut poser quelques atmosphères musicales ou des corps musicales, si on veut, je sais pas. Mais pour la prochaine scène, mais avec lui, ça va très vite.
Et comment on fait dans la prosodie, puisque là, c'est pas de l'espagnol que tu vas utiliser, mais du français?
Ça, vous jugerez quand vous entendrez. Moi, je pense, je l'ai respecté, j'ai joué le jeu à fond, de respecter pour que ça se comprenne. Même si j'ai aussi utilisé beaucoup de techniques vocales différentes. Pas seulement des modes de jeu, mais des coquetus, des mélismes, aussi pour chaque voyelle, mot, etc. J'ai aussi essayé de profiter beaucoup de duo, trio, quintette, dès que je pouvais. Ça, c'est très important pour ça, sortir de la relation binaire de réponse-question. Aussi, j'ai utilisé pas mal de recitativo libre, mesurer, Spressgesang, j'essayais beaucoup de fois des techniques, comment dire, des modes de jeu vocal pour peut-être parfois caractériser un chanteur, etc. Mais j'essayais justement qu'il y ait la plus grande variété possible.
Et donc sur l'instrumentation, c'est un orchestre Mozart avec un petit orchestre, une bande de bandoneon presque.
Oui, c'est ça, un quatuor de bandoneon. Il y a un peu d'électronique aussi, pas beaucoup parce que j'ai pas pu sonoriser les chanteurs ni l'orchestre. Alors du coup, l'électronique peut être jouée que d'une façon pas trop emphatique, hein. C'est normal. Mais il y a des bruitages, il y a tous les citations, il y a.
Et quelle est la difficulté qu'on rencontre devant ce type d'opéra? Est-ce qu'il n'y a aucune difficulté ou est-ce qu'on rencontre une difficulté?
Bien sûr, je pense que dans tout opéra, il y a des difficultés énormes. Et celle-là, pour moi, c'était dur dans le sens, j'avais jamais fait d'opéra. Ah, dur, c'est beaucoup de travail. Je l'ai écrit en 13 mois à fond, je crois que 13 mois à fond. Oui, c'est court hein, pour écrire un opéra. J'ai dû écrire 1h45, ça va rester 1h20. J'espère, parce qu'on fait beaucoup de coupures, et aussi au fur et à mesure j'ai coupé, mais au début j'avais écrit beaucoup, et puis ça s'est rétréci, c'est normal et c'est bien.
Oui, parce qu'à l'opéra, le problème c'est qu'on peut pas s'étendre, je dirais.
Non, ça c'est parfois c'est que je critique beaucoup, c'est que parfois c'est le son, le chant est banalisé, parce qu'il y a tellement de textes, que tout d'un coup il est fonctionnel, et pas vraiment, je sais pas. Aussi, il faut pas s'étendre parce que la pièce ne le permet pas. Il y a un rythme soutenu et puis, moi je pense que si on arrive à 1h20, maximum 1h30, je serai content.
Une question qui est un peu brutale, c'est quand on lit la pièce, on se demande mais qu'est-ce qu'a cherché à dire Coppi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il voudrait dire?
Ça, j'ai aucune idée. Ce que je sais, c'est-à-dire que quand je lis cette pièce, quand je la vois, quand je travaille avec. Je pense que c'est une pièce qui est très vitale, que la ville, l'urgence du moment, de la nature, de tout ça est toujours très prégnant tout le temps. Alors c'est quelque chose qui est, c'est un objet qui est très, le mot qui me vient c'est vital, c'est tout est, c'est, en plus c'est des scènes de la vie quotidienne, mais d'une façon toujours décalée, toujours extrême. Moi je prends énormément de plaisir à travailler avec, surtout avec cette combinaison de tragédie, de comique. Les animaux qui se mélangent aux hommes, la nature qui est présente, omniprésente tout le temps, c'est un monde très exubérant et très, très riche.
Alors par rapport justement à la ville de Buenos Aires, on a l'impression qu'en même temps il y a une critique de la ville de Buenos Aires, puisqu'il a l'air de dire que ce monde naturel, même si on parle cru et si on a des vrais rapports, et que par rapport à la ville, dans la ville c'est autre chose.
Bien sûr, Buenos Aires est situé dans la campagne argentine, Buenos Aires c'est pas aimé c'est normal hein, c'est une jungle Buenos Aires, ça a été toujours et c'est laid. Quand les gens de la province allaient à Buenos Aires, ils se faisaient bouffer tout cru quoi.
Mais la nature aussi on se fait bouffer.
La nature aussi, si va un citadin de Buenos Aires va à la nature, il se fait bouffer tout cru aussi. L'argis, il mange une poule crue parce qu'il y a même pas une brindille pour la cuisiner. Dans sa traversée du désert.
Ça aussi, on voit cette notion du désert, l'opposition à la pampa.
Avec la jungle, avec l'eau qui est partout.
Vous êtes programmé aussi au festival musical de Strasbourg?
Oui, en fait, il y a deux pièces qu'on va faire. Une, c'est La Carte, c'est une pièce pour accroche-notes avec accordéon électronique, percussion et accroche-notes. Et puis le lendemain, un ciné-concert assez récent que je fais sur un Lubitsch, un film de Lubitsch. Vendredi, on joue Le Scorpion avec L'Âge d'or de Buñuel à Genève. Et puis Ars Nova va aller justement tourner le film au Mexique en mois d'octobre. Je pourrais pas aller parce que je suis avec l'opéra, mais ils vont faire trois dates avec des traces et les ciné-concerts.
À Guanajuato?
À Guanajuato, au Salvantino et je sais pas d'autres, j'ai oublié.
Merci.
Merci Omar.